Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, vous allez entendre un témoin clé, un homme, une femme, qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jean-Alphonse Richard et dans cet épisode, j'ai décidé de me pencher sur une affaire qui reste à ce jour non élucidée, malgré une enquête fouillée, une foule d'indices et de témoins. L'affaire Giraud-l'Herbier. La vérité sur ce crime, un homme au moins la connaissait peut-être. Le suspect numéro 1, Jean-Pierre Trébert, mais en choisissant de se suicider, il a emporté avec lui ses secrets. Ce 1er novembre 2004, Géraldine Giraud, 36 ans, comédienne et fille de l'acteur Roland Giraud, et Katia L'Herbier, 32 ans, assistante sociale et chanteuse dans un groupe de rock, passent ensemble un week-end à la Postole, un tout petit village de Lyon, 140 habitants. Les deux femmes se sont rencontrées il y a quelques jours par l'intermédiaire de Marie-Christine Van Kempen, la tante de Géraldine et colocataire de Katia. Géraldine et Katia sont tombées immédiatement amoureuses. Une histoire passionnelle qui a tous les airs d'un coup de foudre. Mais après ce début de séjour en amoureuse, une journée à la Postole, elles ne donnent soudain plus aucun signe de vie. À partir du 2 novembre, Géraldine et Katia ont disparu. Rapidement, un homme est identifié. Jean-Pierre Trébert. Il a été repéré alors qu'il utilisait dans un supermarché d'un département voisin, la Seine-et-Marne, les cartes bancaires de Géraldine et Katia. Le suspect multiplie les versions durant les interrogatoires, devant les policiers, puis devant le juge. Sur son emploi du temps, il avoue qu'il a fait des travaux dans son jardin le week-end de la disparition. Pour les enquêteurs, plus aucun doute, il a dissimulé les corps. Après 2 jours de recherche, les corps sans vie de Géraldine et Katia sont retrouvés dans un puisard, une réserve d'eau usée dans le jardin de Jean-Pierre Trébert. Des corps à moitié dévêtus, couverts d'un tas de pierres. L'autopsie ne montre aucune blessure particulière par balle ou arme blanche, aucune trace de coup suspect ou d'étranglement. Rien, sauf une dégradation anormale des poumons. L'enquête finit par conclure que les deux femmes sont mortes empoisonnées par un gaz très toxique, la chloropicrine. Ce gaz, interdit, a longtemps été utilisé par les gardes-chasse pour exterminer les nuisibles, gardes-chasse, métier qu'a exercé Jean-Pierre Trébert. Malgré des mois d'enquête, plusieurs mises en examen de suspects, des interrogatoires et des confrontations, une reconstitution, les enquêteurs n'ont jamais réussi à définir avec précision ce qui a pu se passer entre le 2 novembre, date où les téléphones des victimes ont cessé de borner, et le jour où les deux corps ont été retrouvés. Jean-Pierre Trébert a-t-il agi seul? La mort des deux jeunes femmes était-elle préméditée? Trébert ne pourra jamais donner une réponse à chacune de ces questions. Après s'être évadé en 2009 de la prison d'Auxerre, il s'est donné la mort, pendu, dans sa cellule. La voix du crime de cet épisode est Michel Meurant. Lorsque Géraldine et Katia disparaissent, il vient tout juste d'être nommé procureur de la République à Sens. Il revient pour nous sur cette affaire difficile et la personnalité secrète de Jean-Pierre Trébert.
Vous savez, moi, c'est une affaire où il ne se passe pas de semaines ou de mois sans que j'y pense. Hein. C'est une affaire qui, d'autant plus que moi, j'ai une autre raison d'y penser, c'est que j'ai failli laisser ma vie. Lors de la reconstitution chez Trébert, j'ai fait un infarctus massif qui a failli me coûter la vie. Donc, l'affaire Trébert, moi, elle est marquée dans ma chair.
Michel Meurant, bonjour.
Bonjour.
Les deux femmes dont nous parlons aujourd'hui, Katia L'Herbier et Géraldine Giraud, ont disparu donc le 1er novembre 2004. Qu'est-ce qui est inquiétant tout de suite dans cette disparition?
Dans un premier temps, la famille de Katia L'Herbier se présente au commissariat de police de Sens pour communiquer ses inquiétudes à propos de la disparition de Katia. Elle avait pris des engagements au regard de sa famille, elle ne les a pas tenus et ils n'ont aucune nouvelle d'elle. On apprendra par la suite que Roland Giraud a fait exactement la même démarche à Paris auprès d'un service spécialisé. La même chose, il avait des habitudes avec sa fille, et notamment, ils avaient l'habitude d'avoir un contact téléphonique chaque dimanche, chose qui n'avait pas eu lieu, et ils n'arrivaient pas à la joindre. Donc, dans un premier temps, ce sont les familles qui s'inquiètent et qui nous communiquent leur inquiétude et qui nous demandent d'enquêter sur cette disparition.
Le fait, monsieur le procureur, que Roland Giraud soit un acteur connu, est-ce que ça complique tout de suite les choses et l'enquête qui va démarrer ?
Pas du tout. D'abord, dans un premier temps, moi je ne suis pas saisi de ça, je suis saisi uniquement de la disparition de Katia L'Herbier. Ça n'est que par la suite que le procureur général, sachant que en fait la disparition s'est produite dans Lyon, nous chargera de la totalité de l'enquête. Quand on recherche quelqu'un, que ce soit une personne qui a disparu ou quelqu'un qu'on recherche, à qui on souhaite poser quelques questions, il y a deux moyens de tracer. Il y a le moyen de la téléphonie, évidemment, et il y a le moyen des modes de paiement. La téléphonie, il n'y en avait plus du tout. On n'avait plus aucun contact téléphonique, ni avec Katia, ni avec Géraldine. Donc, on s'est rabattu sur les moyens de paiement. Or, une carte bancaire est utilisée dans un supermarché en Seine-et-Marne. La vidéosurveillance du supermarché nous montre que c'est un homme qui l'utilise. On se rend bien compte à ce moment-là qu'il y a un problème, sans compter que sur la vidéo, à aucun moment, ni Katia ni Géraldine n'apparaissent. L'erreur, entre guillemets, qu'il fait et qui nous est favorable, c'est qu'il va utiliser à plusieurs reprises les cartes bancaires. Et lors d'une utilisation, eh bien, il fait un plein d'essence. Et la caméra de vidéosurveillance de la station-service nous montre un homme qu'on reconnaît comme étant celui qui apparaissait sur la vidéo du supermarché, mais aussi un véhicule qui s'avère être une 205 de couleur blanche. Et, coup de chance, on a une partie du numéro d'immatriculation. Donc à partir de là, on va évidemment interroger les fichiers des préfectures de France et de Navarre et on va nous sortir 5000 véhicules. Bon, évidemment, c'est impensable de vérifier 5000 véhicules. Donc on va prendre un pari et on va se dire, puisque ça se passe en Seine-et-Marne, on va essayer de voir s'il y a quelque chose qui correspond en Seine-et-Marne. Et là, on va arriver à identifier 5 véhicules. Et en faisant l'environnement des propriétaires de chacune de ces voitures, eh bien, on finira par cerner la personnalité de Jean-Pierre Trébert. Un matin, on l'a logé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a trouvé l'endroit où il vit. Et un matin, alors qu'il part au travail, il y a deux véhicules de la PJ qui le coincent et qui l'interpellent. Alors évidemment, il est placé en garde à vue immédiatement. Mais au moment où on procède à sa fouille, on découvre dans son portefeuille les cartes bancaires de Géraldine et de Katia. Il n'a pas l'air trop stressé ni étonné. Il dit même au policier, bah, « Si c'est pour ça que vous m'avez interpellé, je vais vous expliquer ». Il est ramené dans les locaux du commissariat de Melun. Et au cours de son premier interrogatoire, il dit « Bah oui, bien sûr, je les connais toutes les deux. » Et il donne une première version de la façon dont ils se sont connus.
Quelle est cette première version, monsieur le procureur ?
Alors, cette première version, c'est qu'ils se sont connus à Sens, durant l'été, à une terrasse de café. Alors, évidemment, tout de suite, ça fait sursauter les policiers, puisqu'ils savent, eux, que les deux jeunes femmes ne se connaissent que depuis une quinzaine de jours. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. On le reprend, et là, bon, il ne se démonte pas, il nous donne une autre version. Et puis, il en donnera une troisième. Il nous raconte que Géraldine lui a demandé de venir avec elle à Paris, parce qu'elle doit rencontrer des gens auxquels elle veut acheter des faux papiers.
Tout ça, monsieur le procureur, est assez embrouillé. On a l'impression qu'il raconte plusieurs versions à la fois, en tout cas qu'il essaie peut-être de gagner du temps. Qu'est-ce que vous savez à ce moment-là de ce Jean-Pierre Trébert, son profil ? Qu'est-ce qui se dessine de lui ?
Durant la garde à vue, on ne sait pas grand-chose, hein, si ce n'est qu'il travaille dans un domaine agricole en Seine-et-Marne, qu'il est originaire de l'Est, hein, d'Alsace, qu'il a travaillé là-bas dans une jardinerie, je pense, si j'ai une bonne mémoire, et puis ensuite qu'il est venu en Seine-et-Marne travailler comme garde-chasse. On sait qu'il est divorcé, qu'il a des enfants.
Est-ce qu'il a des antécédents judiciaires, Jean-Pierre Trébert ?
Pas à ma connaissance. Manifestement, on a en face de nous quelqu'un qui ne veut pas nous dire la vérité, qui nous cache la vérité. Et pendant ce temps-là, il faut bien se dire qu'on ne sait toujours pas où sont Katia L'Herbier et Géraldine Giraud. Hein. L'interpellation, si j'ai bonne mémoire, s'est déroulée le 23 novembre 2004. À ce moment-là, on ne sait pas où elles sont. Hein. On ne sait pas si elles sont vivantes, on ne sait pas si elles sont mortes. On ne sait rien du tout à leur sujet. Au bout des 48 heures de garde à vue, il est déféré, présenté au juge. Alors là, il est mis en examen du chef d'enlèvement, séquestration et escroquerie. Il est à la maison d'arrêt d'Auxerre et donc c'est le juge et moi qui allons à la maison d'arrêt d'Auxerre. Lors de cet interrogatoire, le juge s'évertue à déterminer quel a été l'emploi du temps de Jean-Pierre Trébert pendant le week-end du 1er novembre. Et il nous dit que, il a fait des travaux dans son jardin. En fait, à ce moment-là, il parle d'une maison qui se situe à Villeneuve-sur-Yonne, sur les hauteurs de Villeneuve-sur-Yonne, sur les hauteurs de la vallée de l'Yonne, et que, notamment, il a emprunté une pelleteuse pour arracher des buissons dans le jardin. Alors, évidemment, la pelleteuse, évidemment, ça nous ouvre des horizons immédiatement. Évidemment, avec le juge, on se dit il s'est servi de la pelleteuse pour les enterrer à tous les coups, donc il faut aller fouiller le terrain. Il y a eu des perquisitions qui avaient été faites dans la maison, dans les dépendances, mais on ne s'était pas préoccupé du terrain. On fixe ça au 8 décembre, et le 8 décembre, on va débarquer sur le terrain avec un matériel qui nous permettra de creuser. Auparavant, on avait envoyé les gens de la PJ pour bien cerner le terrain, voir au cadastre, etc. Et ils étaient revenus nous voir surexcités en disant « il y a une tombe dans le terrain ». Alors il dit « comment ça, une tombe ?» Oui, il y a un rectangle, comme quand on creuse une tombe dans un cimetière, et qui a été rebouché, mais vous savez que la terre qu'on remue, évidemment, prend du volume à cause de l'air qui est enfermé, et on voit très bien que, bon... Et donc, le 8 décembre, on débarque là-bas avec le matériel dont je vous parlais. On se rend compte que là, il y a eu une tentative de creusement, mais qui a échoué à cause de la nature du terrain. On va découvrir les restes d'un foyer. Trébert nous dit que c'est lui qui a fait du feu pour brûler des épines. Mais dans le foyer, on va retrouver deux carcasses de téléphone portable, des boutons de vêtements, le clip de fermeture d'un sac à main et un trousseau de clés. Donc on recommence le lendemain et en fin de journée, on progresse donc méthodiquement vers le bas puisque le terrain est en pente et vers la route qui borde la propriété. Et pratiquement en limite de propriété, il y a un puisard. Les policiers enlèvent le couvercle et là se dégage une odeur pestilentielle. Mais bon, un puits de perte des eaux usées, ça sent jamais très bon. On se rend compte que dans le fond du puisard, il y a un tas de pierres, des rognons de silex pour être plus précis. Un policier descend, il enlève quelques pierres et là, un pied apparaît. Donc on se dit, c'est bon, on a trouvé.
Vous avez donc découvert ces deux corps au fond de ce puisard. Que va dire l'autopsie de ces deux femmes ?
L'autopsie ne va pas dire grand-chose. On ne trouve aucune trace de blessure, soit par balle, soit par arme blanche, soit par objet contondant. Il n'y a pas de trace d'agression sexuelle. Par contre, les poumons sont dans un état un peu curieux. Un lieutenant de louveterie prendra contact avec les enquêteurs pour dire que l'utilisation qu'on faisait autrefois pour détruire les nuisibles et notamment les renards d'un produit qui s'appelle la chloropicrine laissait les poumons dans un état très particulier. Il faut rappeler que à la découverte des corps, les deux corps avaient le visage masqué par du ruban adhésif de manière à ce que le nez qui soit apparent. Autrement dit, qu'on ne puisse respirer que par le nez. on se dit, bon, il est possible qu'on ait utilisé ce produit. Problème, il faut le déterminer. Donc, on va avoir recours à un toxicologue. Elles avaient encore sur elles quelques vêtements. Et l'analyse de ces vêtements va révéler la trace de chloroforme. Or, le chloroforme est un élément de décomposition de la chloropicrine qui est un gaz très instable.
Et vous allez pouvoir établir que Jean-Pierre Trébert utilisait ce genre de produit, lui qui est une espèce de garde-chasse, un homme des bois.
L'homme des bois, ça c'est la presse qui l'a baptisé comme ça. En fait, il a été effectivement garde-chasse et il a dû utiliser la chloropicrine. Ceci étant, c'est un produit qui est interdit à la vente et à l'utilisation en France depuis 1989. Néanmoins, ça continue d'être utilisé de façon clandestine. Et d'ailleurs, les gens de l'Office national de la chasse de Seine-et-Marne nous diront que Trébert était un de leurs informateurs à ce sujet-là. C'est un produit excessivement toxique, très virulent. Le toxicologue me disait, voyez-vous, monsieur le procureur, on en débouche un tout petit flacon dans votre bureau, en un quart d'heure, tout le monde est mort.
Alors, on revient, monsieur le procureur, à la question du mobile. Parce que là, vous avez un suspect numéro un, vous avez deux cadavres. Désormais, on n'est plus du tout dans le même type d'affaire. Le mobile, c'est quoi? C'est quelques euros retirés, c'est ça, pour lesquels il aurait tué ces deux femmes?
Il y a plusieurs hypothèses, mais...
On va les prendre, si vous voulez bien. L'hypothèse de l'argent, elle paraît bien fragile. Vous allez donc faire, monsieur le procureur, l'entourage, je suppose, des deux jeunes femmes. Vous allez vous intéresser à qui dans cet entourage qui, selon vous, vous paraît digne d'intérêt, en tout cas, d'être interrogé?
L'environnement de Katia Lherbier ne posait pas de problème majeur. C'est une fille qui avait une vie quand même assez régulière. Elle travaillait sur Sens, elle chantait dans un groupe musical. Elle habitait chez Marie-Christine Van Kempen.
On le rappelle, monsieur le procureur, Marie-Christine Van Kempen, c'est la tante de Géraldine.
C'est la sœur de la mère de Géraldine.
Vous allez chez elle, vous allez vouloir l'interroger ou perquisitionner?
Effectivement, on va aller chez Marie-Christine Van Kempen, d'abord pour l'entendre, pour savoir ce qu'elle a à nous dire sur ses relations avec elle et avec sa nièce, et on va perquisitionner. Et là, on va découvrir une lettre qui n'a pas été envoyée, mais qui est un peu curieuse, qui ressemble fortement à une lettre où quelqu'un fait part de son dépit amoureux.
C'est une lettre de qui, monsieur
le
procureur ?
De Marie-Christine Van Kempen.
Donc c'est elle qui écrit ces mots ?
Voilà, adressée à Katia Lherbier.
Vous trouvez ce mot pour le moins troublant et vous estimez peut-être, en tout cas c'est une idée qui peut germer à ce moment-là, qu'il y a une histoire de jalousie entre la tante.
On se pose la question, on se remet en mémoire l'histoire de la pseudo-agression sexuelle dont aurait été victime Géraldine. On se rend compte d'une chose, c'est que ce que raconte Trébert, c'est la version de Marie-Christine. C'est au cours de sa garde à vue, alors qu'on l'interroge sur ses relations avec Géraldine Giraud, qu'il raconte que celle-ci lui aurait confié qu'elle avait été violée, ou tout au moins fait l'objet d'abus sexuels dans son enfance, de la part de son père. Le juge, alors qu'on n'a toujours pas retrouvé les corps, le juge entend Roland Giraud. Évidemment, le juge lui pose la question, lui dit voilà ce que raconte Trébert, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? Roland Giraud explique qu'un soir, en rentrant chez lui, il trouve que sa femme fait une drôle de tête. Et au bout d'un moment, il lui dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, tout à trac, sa femme lui déballe cette histoire-là. Alors évidemment, il dit je suis tombé du placard. Il a une conversation avec sa fille et sa fille lui dit « Mais pas du tout, j'ai jamais dit ça, moi j'ai simplement dit que comme j'allais pas bien, faut dire que bon, elle avait quand même des conduites addictives qui étaient un peu gênantes, j'ai vu un psy et le psy m'a dit que je présentais les symptômes de quelqu'un qui aurait été agressé sexuellement pendant sa jeunesse. Et j'en ai parlé avec Marie-Christine, donc sa tante, qui m'a dit « Ah bah de toute façon, si t'as été agressé, ça peut être que ton père ». Voilà ce que nous raconte Giraud. Alors, c'est très intéressant parce que ça va ouvrir des perspectives qui sont pas mal. Donc là, il y a une conjonction de deux éléments qui nous laisse quand même perplexes et largement douter et de poser des questions sur l'éventuelle implication de Marie-Christine Van Kempen.
Il y a aussi également, monsieur le procureur, à ce niveau du dossier, le témoignage d'une barmane.
Comme on a des doutes sur Marie-Christine Van Kempen, eh bien, on travaille dans ce sens-là. Enfin, notamment dans ce sens-là, pas uniquement, mais notamment. Et un an après le début de l'affaire, les policiers de la PJ de Dijon vont trouver la tenancière d'une brasserie de Fontainebleau qui dira avoir vu dans son établissement, Jean-Pierre Trébert, en compagnie de Marie-Christine Van Kempen. Parce que jusque-là, on n'a pas réussi à faire de connexion entre eux.
C'est-à-dire que jusque-là, les deux intéressés, Marie-Christine Van Kempen et Jean-Pierre Trébert, disent « on ne se connaît pas ».
Absolument,
c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Là, eh ben, on a quelqu'un qui vient nous dire qu'en fait, ils se connaissent peut-être.
Donc là, ça change la mise.
Ah bah, tout à fait.
Qu'est-ce qu'elle va vous dire, Marie-Christine Van Kempen, sur ce témoignage accablant pour elle ?
Elle dit que c'est pas elle, que la tenancière se trompe, qu'elle nous donne son emploi du temps des dates qui sont possibles, parce qu'il y a plusieurs dates possibles. Il faut se dire que ça remontait, quand on découvre cette tenancière de brasserie, les faits remontent à plus d'un an. On décide avec le juge et après, moi j'en ai discuté avec le parquet général, on décide de mettre Marie-Christine Van Kempen en examen du chef de complicité et mise en détention. D'ailleurs, un an, jour pour jour, après la mise en examen de Trébert, donc ce sera le 25 novembre 2005. Lorsque le juge la réentend, elle le nie totalement être pour quoi que ce soit dans cette histoire. Elle fait état des emplois du temps qu'elle nous a fournis. Donc, on en reste là. Le juge entend Trébert sur ses éventuels rapports avec Marie-Christine Van Kempen. Il reste sur ses positions. Non, il la connaît pas, il l'a jamais rencontrée. La tenancière de la brasserie se trompe, c'est pas possible. Donc, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de les confronter.
Et que va donner la confrontation, alors, à ce moment-là ?
Pas grand-chose, puisque chacun va rester sur ses positions.
Marie-Christine Van Kempen sera libérée le 27 février 2006.
Tout à fait. Lorsqu'elle demandera sa mise en liberté, je ne m'y opposerai pas et le juge y fera droit. Marie-Christine Van Kempen a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu qui apparaît tout à fait justifié. Parce que on avait quelques soupçons sur elle, il y avait des éléments qui laissaient penser qu'elle pouvait être impliquée, mais jamais on n'est parvenu à corroborer, à apporter la preuve d'une quelconque implication. Donc, cette ordonnance de non-lieu était totalement justifiée. Roland Giraud en fera appel, et la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris confirmera l'ordonnance du juge.
Et puis il va y avoir, monsieur le procureur, il faut quand même en dire un mot, il va y avoir ce coup de théâtre incroyable. Jean-Pierre Trébert s'évade de la maison d'arrêt d'Auxerre.
Oui, ça beaucoup plus tard. Hein.
Il va y avoir tout de même, monsieur le procureur, quelque chose de très important dans cette cavale, en tout cas un élément intéressant, c'est qu'il va écrire une lettre à des journaux où il va clamer son innocence, Jean-Pierre Trébert.
Oui, mais il a fait que ça depuis le début. Hein. Il a fait que ça, que dire qu'il y était pour rien, etc. Ceci étant, à chaque fois qu'on le mettait en face de ses contradictions, parce que bon, il y en avait de nombreuses, il se refermait comme une huître et on n'en tirait plus rien. Donc c'est bien beau de clamer son innocence, mais encore faut-il répondre clairement aux questions qu'on vous pose et pas donner de multiples versions d'une chose qui pourrait être très simple, en fait.
Quelle est, monsieur le procureur, votre intime conviction dans cette affaire ? Est-ce que vous pensez que, avec Jean-Pierre Trébert, vous aviez dans vos mains le coupable de ce double crime ?
On avait quelqu'un qui y avait trempé, ça c'était évident. Il faut pas oublier qu'elles disparaissent. Quelques heures plus tard, on trouve Jean-Pierre Trébert en train de retirer de l'argent avec leur carte bancaire au guichet du Crédit Agricole de Villeneuve-sur-Yonne, là où il habite. On le retrouve en possession des cartes qu'il a utilisées. On retrouve les corps chez lui. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y était pour rien. Là. Ça, alors, quel a été son rôle précis? Ça, c'est justement une des impasses du dossier. Hein. Parce qu'on sait qu'elles sont mortes. On sait où on les a retrouvées. On sait, avec une quasi-certitude, comment elles sont mortes. Mais ni où précisément, ni pourquoi.
Vous pensez encore aujourd'hui il était tout seul, Jean-Pierre Trébert, c'est une certitude.
Moi, je pense, oui. En tout cas, on n'a jamais démontré l'implication de quelqu'un d'autre. Pourtant, je peux vous dire que le juge a cherché, puisque tout ce que a dit Trébert a été vérifié, ses fréquentations. Parce que l'une des thèses qui a été développée par la défense de Trébert, c'est que à une certaine époque de sa vie, avec son dernier patron, il fréquentait un peu des gens d'un certain milieu, je dirais pas le milieu, mais des petits voyous. Et le juge a recherché, les policiers sont allés interpeller et entendre quelqu'un en Pologne, ils sont allés interpeller et entendre quelqu'un au Pérou, et jamais on a réussi à mettre quelqu'un d'autre en cause dans cette affaire-là, hein, jamais.
Encore une question, monsieur le procureur, est-ce que vous pensez, alors c'est tout à fait improbable, hein, mais qu'il y ait peut-être une petite lumière, une lueur qui permette peut-être de savoir très exactement ce qui s'est passé un jour dans cette affaire ou pas?
C'est prescrit. C'est-à-dire que, bon, vous savez qu'en matière criminelle, la prescription est de 10 ans. Mais 10 ans à partir du dernier acte de procédure. Le dernier acte de procédure, c'est l'arrêt de la cour d'assises de Lyon qui a constaté l'extinction de l'action publique par décès de l'accusé, c'est-à-dire Trébert. Et si j'ai bonne mémoire, l'arrêt est d'avril 2010. Donc depuis avril 2020, l'affaire est prescrite.
Donc l'affaire Giraud-L'Herbier est terminée aujourd'hui, c'est fini,
ah, tout à fait.
C'est bouclé.
Tout à fait, et on ne saura jamais.
Vous venez d'écouter le 13e épisode de la saison 2 des Voix du Crime, consacré à l'affaire Jean-Pierre Trébert. Pour réécouter ce podcast et bien d'autres encore, rendez-vous sur l'application RTL et sur vos plateformes favorites.